VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 21 juillet 2016. À la une ce soir, échange de tirs à Gao entre ex-rebelles de la CMA et les membres du Gatia.
En fait, état de ces échanges de tirs à Kidal, le Mali en deuil national suite à l'attaque de Nampala. L'état d'urgence est prolongé de 10 jours.
En Gambie, le chef de file de l'opposition condamné à 3 ans de prison.
À état d'urgence en Turquie, tandis que se poursuit la purge après la tentative de coup d'état.
Ted Cruz chahuté pour n'avoir pas soutenu Donald Trump dans son discours, tout sur la convention républicaine avec nos envoyés spéciaux.
Nous aurons bien sûr après les dossiers du jour l'économie et les sports en fin d'édition, mais...
D'abord, le journal. Voilà, au Mali, échange de tirs en ce moment même, hein, dans le nord du pays, à Gao, Idriss Fall.
Plutôt à Kidal, et au moment où nous parlons, les essences se poursuivent. Apparemment, ça oppose les éléments de la CMA, qui est l'ex-coalition rebelle Touareg, et les Gatia, qui sont les milices pro-gouvernementales. Ce qui est bizarre, c'est que ces affrontements interviennent juste après la signature d'un accord à Niamey dimanche dernier, et nous venons de joindre il y a à peine 5 minutes un habitant de Kidal qui s'appelle
Asikadey
Agwer Zagan. Donc écoutez son témoignage en plein tir.
Voilà. Et je suis à l'intérieur de la maison comme ça.
Et qui est-ce qui s'affronte?
C'est la SEMA et puis le Gatia. J'entends tout ça.
Et quand est-ce que ça a commencé?
Ça a commencé, ça approche une heure de temps maintenant. Hein. Ça approche une heure de temps.
Mais on pensait que Al-Gabas et le général Gamou avaient signé un accord récemment, non? À Niamey, non?
Oui, c'est fait, mais aujourd'hui, voilà, c'est la dividende de cet accord-là, c'est ça. Voilà. J'espère que vous entendez tout ça. Hein.
Alors, qu'est-ce qui a pu provoquer ces échanges de tirs?
Vraiment, on ne sait pas parce que moi, ça m'a trouvé à l'intérieur et je suis encore à l'intérieur de chez moi. Je ne suis pas sorti. Mais il paraît, selon des informations, c'est un véhicule de Gatia qui a tenté de rentrer quoi, dans la ville.
Il y a eu 2 personnes qui ont été tuées, non?
Il y a eu 3 morts. L'incident d'avant-hier a coûté la vie à 3 personnes, dont un civil.
Voilà donc Asikadey Agwer Zagan, qui était le directeur de la radio Tisdas, qui est à Kidal. Voilà pour le point. Peut-être qu'on va revenir dessus dans nos prochaines éditions, Morgan.
Il faut dire aussi que le président du Mali a rendu hommage aux 17 soldats tués lors de l'attaque de Nampala mardi. La cérémonie s'est déroulée dans le camp militaire de Ségou. Auparavant, le gouvernement malien avait décrété un deuil national de 3 jours et 10 jours d'état d'urgence. Kassim Traoré.
Nampala a été attaqué pour la 4e fois par des hommes armés. Pour la 1e fois, l'État recourt à l'état d'urgence pour une période de 10 jours, susceptible d'être prorogée par le Parlement malien. Le gouvernement malien, de son côté, a décrété un deuil national de 3 jours. C'est ce même jeudi aussi que le président de la République du Mali s'est déplacé à Ségou. Ibeka, dès son arrivée, s'est dirigé vers l'hôpital Nyanankoro Fomba pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. C'est dans le camp Sékou Amadou Tall que Ibrahim Boubacar Keïta a participé à l'hommage rendu par la nation malienne aux 17 soldats tombés à Nampala. Un hommage qui, selon lui, sera une tradition au Mali. Ibeka décide désormais d'accompagner les soldats maliens tombés sur le champ de l'honneur dans leur dernière demeure. Un acte salué par la population de Ségou qui ne s'est pas privée aussi de demander au chef de l'État de donner des moyens nécessaires et des matériels aux militaires maliens. Il faut rappeler que les 17 soldats ont été décorés à titre posthume Bamako. Kassim Traoré, VOA
En Gambie, le leader de l'opposition et 17 autres militants ont été condamnés hier à des peines de prison. Idriss Fall.
Oseinu Dagbo, leader du Parti démocratique unifié, principal parti d'opposition, et 17 autres partisans ont écopé de 3 ans de prison chacun. Ils ont été reconnus coupables de 6 chefs d'accusation, dont participation à un rassemblement illégal. Ces opposants ont été appréhendés le 16 avril pendant une manifestation pacifique pour exiger la libération de dizaines de leurs sympathisants qui avaient été arrêtés l'avant-veille. 25 d'entre eux sont toujours détenus en attendant leur procès. Les manifestants réclamaient aussi une enquête sur la mort en détention de Solo Sandeng, secrétaire national à l'organisation de l'UDP, arrêté le 14 avril. Ce verdict a eu lieu 2 jours avant le 22e anniversaire du coup d'État qui a amené Yahya Jammé au pouvoir et moins de 5 mois avant les élections présidentielles.
République démocratique du Congo, les Nations Unies estiment que les avancées en matière des droits de l'homme sont en danger si rien n'est fait pour apaiser la tension qui monte au fur et à mesure qu'approche la fin du mandat du président Joseph Kabila. Les avancées importantes réalisées dans le domaine de lutte contre l'impunité et les violences sexuelles reflètent des progrès plus larges réalisés en RDC depuis la dernière décennie, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, lors d'une conférence de presse à Kinshasa.
Soudan du Sud, le président Salva Kiir appelle son rival à rentrer dans la capitale Djouba pour relancer le processus de paix et mettre en œuvre l'accord de paix. Le vice-président et chef des ex-rebelles Riek Machar avaient fui après de violents combats entre leurs troupes respectives.
Le Rwanda, de nouveau dans le collimateur de Human Rights Watch, un nouveau rapport intitulé « Rwanda, enfermer les pauvres », l'ONG américaine reproche à Kigali de poursuivre sa politique de détention arbitraire d'enfants des rues, indigents et vendeurs à la sauvette dans les centres de transit. Les mauvais traitements y seraient monnaie courante.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la Turquie s'est réveillée aujourd'hui sous état d'urgence avec un appel du président Recep Tayyip Erdogan à son cher peuple pour qu'il reste mobilisé en faveur de la démocratie après le putsch raté du 15 juillet. John Lindon.
L'état d'urgence annoncé hier par le président turc Recep Tayyip Erdogan donne des pouvoirs étendus à l'exécutif en lui permettant de prendre des décrets ayant force de loi. L'état d'urgence instauré pour 3 mois n'avait pas été décrété depuis près de 15 ans. Il prévoit notamment des restrictions aux libertés de manifester ou de circuler. Le vice-premier ministre a néanmoins confié aux médias que le gouvernement pourrait le lever dans 1 mois ou 1 mois et demi si les conditions reviennent à la normale. Recep Tayyip Erdogan rejette toute atteinte aux libertés fondamentales et les critiques venues de l'étranger. Nous resterons un système démocratique parlementaire. Nous ne reculerons jamais là-dessus, a assuré le président turc. Il a par ailleurs appelé ses concitoyens à continuer à descendre dans la rue pour résister aux traîtres terroristes.
8 militaires turcs, dont 5 pilotes ayant fui en Grèce samedi après le putsch avorté en Turquie, ont été condamnés aujourd'hui par un tribunal grec à 2 mois de prison avec sursis dans un contexte sensible sur le plan bilatéral. Les officiers resteront toutefois en détention en raison de l'absence de papiers d'identité.
Le responsable des relations internationales du gouvernement turc, Aysel Sözen Uslu'er, a prédit que le putsch manqué du 15 juillet n'aura pas un impact considérable sur les liens entre Ankara et Washington. Monsieur Uslu'er a déclaré à la Voix de l'Amérique que son pays compte adopter une approche mutuellement bénéfique dans ses rapports avec les États-Unis.
Le chef de l'OTAN a réagi aux propos de Donald Trump. Le candidat républicain à la présidentielle de novembre aux États-Unis a suggéré que son appui à un État membre de l'Alliance en cas d'attaque de la Russie serait conditionnel. Jens Stoltenberg a déclaré que la solidarité était une valeur essentielle, un des principes de base de l'OTAN et l'article 5 du traité qui prévoit qu'une attaque contre un de ses membres est une attaque contre chacun d'entre eux.
L'auteur de l'attentat de Nice le 14 juillet, le Tunisien Mohamed Lawayjh Boulel, n'a pas agi seul. C'est la conclusion du procureur chargé de l'enquête. Dans une déclaration à la presse, François Moulin a fait état de soutien et de complicité, soulignant que le tueur avait probablement projeté son passage à l'acte plusieurs mois avant la fête nationale française du 14 juillet. Plus de 400 enquêteurs sont sur ce dossier qui progresse, selon le procureur.
Une loi exigeant que les électeurs du Texas montrent une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement pour voter est discriminatoire et viole la loi sur les droits de vote aux États-Unis. C'est ce qu'a statué aujourd'hui la Cour d'appel américaine de la 5e circonscription, basée en Louisiane, plus précisément à la Nouvelle-Orléans. Jacques Aristide.
La ministre de la Justice a immédiatement applaudi le verdict, Loretta Lynch affirmant que la décision confirme la position du gouvernement américain selon laquelle cette loi très restrictive du Texas réduit le droit de vote sur une base raciale ou à la couleur de peau, une loi qu'il faut modifier, dit-elle, avant la tenue d'une autre élection. Cette cour d'appel, composée de 15 juges, et qui pourtant a la réputation d'être l'un des tribunaux fédéraux les plus conservateurs des États-Unis, a ainsi demandé à un tribunal de district de proposer une solution à court terme qui devra être utilisée au Texas dans le cadre de l'élection présidentielle de novembre. Les détracteurs des lois dites « Vote ID », adoptées dans des États gouvernés par les Républicains, affirment qu'elles visent à rendre plus difficile le vote des minorités, dont les Africains-Américains et les Hispaniques, qui ont tendance à soutenir les démocrates. Quant aux partisans de ces lois, ils avancent qu'elles sont nécessaires pour combattre la fraude électorale avec des gens qui pourraient voter pour d'autres ou voter dans plusieurs États.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et maintenant, place à notre segment spécial sur la convention du Parti républicain.
Nous avons sur place à Cleveland, dans l'Ohio, Nicolas Pinot et Idrissa Seloudia. D'abord, Nicolas nous parle du clos de cette dernière soirée. Sans nul doute, le discours de Donald Trump.
Oui, le candidat républicain Donald Trump qui doit s'exprimer ce jeudi soir sur la scène de la Quicken Loans Arena ici à Cleveland. On attend beaucoup évidemment du candidat républicain des attaques contre Hillary Clinton. Il en sera certainement question ce soir. Mais on attend aussi peut-être plus de points précis sur son programme. C'est ce qui manque un peu ici à cette convention. Depuis le début des débats, on a beaucoup attaqué l'adversaire démocrate Hillary Clinton, mais on a moins entendu parler des idées. Lui qui veut rendre à l'Amérique sa grandeur. Nous entendrons ça ce soir, évidemment, sur la scène. Avant ce discours, on écoutera également la fille de Donald Trump, Ivanka, qui s'exprimera également. Il sera également question de politique étrangère dans cette intervention. Mercredi, dans une interview accordée au New York Times, Donald Trump a notamment évoqué les relations avec l'OTAN et notamment les États baltiques. Il estime qu'en cas d'attaque de la Russie, il faudrait d'abord voir si les États baltiques remplissent leurs obligations vis-à-vis des États-Unis avant d'autoriser une réponse face à la Russie. Une interview qui a fait polémique à nouveau. C'était Nicolas Pinot en direct de Cleveland pour VOA Afrique.
Merci Nicolas. Il faut dire que le discours du colistier de Donald Trump, le gouverneur Mike Pence de l'Indiana, n'a pas eu toute la couverture médiatique escomptée à cause du tollé suscité par le refus de Ted Cruz d'appuyer ouvertement le ticket républicain. Henri Francisque a évoqué le cas Cruz avec Idrissa Seydoudia.
Les réactions ont été très négatives. D'ailleurs, Paul Manafort, qui est le directeur de campagne de Donald Trump, a critiqué vertement ce matin Ted Cruz en disant qu'il n'a pas tenu parole parce qu'il s'était engagé avant les primaires d'appuyer le candidat du parti, ce qu'il n'a pas fait. Mais ce matin, en s'adressant aux membres de la délégation du Texas, Ted Cruz a dit qu'il y a quelques jours, quand ils l'ont contacté, il leur a dit clairement qu'il n'allait pas le faire. Alors, il est venu, il a essayé de défendre sa position en disant qu'il ne comprend pas pourquoi les gens sont si mécontents quand il leur dit de voter leur conscience, de faire ce que leur dicte leur conscience. En réalité, bon, il va suivre ce que Donald Trump va faire. Et avant de décider quoi que ce soit, il demande aux autres de faire la même chose. Quelqu'un lui a demandé, mais et votre promesse? Vous avez dit que vous alliez faire ceci et cela, et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Alors c'est en ce moment-là qu'il a ressorti cette histoire, l'attaque ad hominem contre sa femme, contre son père. Vous vous souvenez, Donald Trump avait qualifié sa femme de laide et avait aussi fait allusion à son père, une histoire selon laquelle il aurait trempé dans le meurtre de l'ancien président John Kennedy. Il a dit qu'une personne qui attaque de cette façon sa femme et son père, il n'est pas prêt à respecter quelques engagements qu'il ait pris. Mais il était clair que Ted Cruz n'était pas prêt à dire voter pour Donald Trump, il a été très très clair. Il a dit que je leur avais dit dès le début que je ne le ferais pas. J'aurais pu ne pas venir. Ils ont insisté pour que je vienne. Moi, j'aurais pu rester ailleurs, comme les autres l'ont fait. J'ai eu le courage de venir et je dis la vérité, ce que je pense sincèrement. Et ne me demandez surtout pas d'appuyer quelqu'un qui s'en prend à ma femme, qui s'en prend à mon père, en somme, qui s'en prend à ma famille.
Idrissa Seydoudi, envoyé spécial à Cleveland. Morgane Guiriec et Chérubin Gaby Dorcy, en votre compagnie, place au dossier du jour, première escale, le Tchad.
Il est difficile de se connecter aux réseaux sociaux depuis plus de 3 mois au Tchad. Quelques rares internautes contournent la restriction via les applications de sécurité pour y accéder, écrit à la restriction de la liberté d'expression. Le récit d'André Kodmajingar.
Cette perturbation remonte en février dernier lorsque les élèves de quelques établissements scolaires de la capitale ont tenté de manifester pour soutenir la jeune lycéenne Zoura violée par un groupe de fils de haut dignitaires de la République. Pour contenir ce mouvement d'humeur, les autorités ont procédé à la coupure des réseaux sociaux alors que le président tchadien lui-même a utilisé le même canal pour condamner cet acte et appeler au calme. Ensuite, cette perturbation s'est poursuivie pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle contestée du 10 avril 2016. Pire, à quelques jours de l'investissement du président élu, la censure n'est toujours pas levée. Pour les internautes tchadiens, cette mesure a un fondement politique.
Dans un pays qui se réclame un pays des droits, qu'on puisse violer la liberté des individus, il faut libérer les réseaux sociaux pour permettre aux jeunes tchadiens de communiquer comme tous les autres jeunes du monde.
Si le gouvernement veut faire allusion à la sécurité, nous avons été même frappés ici en plein cœur d'N'Djamena. Ça n'a pas amener le gouvernement à restreindre l'accès aux réseaux sociaux. Si ce n'est pas lié à la politique, alors qu'on nous dise clairement. À mon avis, le gouvernement craignait que ces réseaux soient utilisés pour organiser une grande mobilisation des citoyens pour contrecarrer ce hold-up électoral. Ça ne peut pas avoir un autre lien à part ce lien politique.
Pour le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, Daoud El Hadj Adam, la restriction de l'accès aux réseaux sociaux ces derniers mois ne se justifie pas.
On ne peut pas comprendre dans ce monde du 21e siècle que les Tchadiens puissent être ceux de la planète qui soient privés d'un accès au savoir comme aujourd'hui les réseaux sociaux qui permettent de communiquer. Quand l'opérateur estime que c'est un manque à gagner, je ne pense pas que tous les 2 ou 3 opérateurs qui sont sur place puissent de façon unanime avoir des perturbations sur les réseaux. Et une perturbation ne peut pas perdurer pendant 3 mois. Donc il y a une déduction de fait, c'est que le gouvernement a interpellé. Le fait de dire que ce n'est pas pour des fondements politiques, non. Si ce n'est pas le cas, alors donner des injonctions aux opérateurs de rétablir l'accès parce que les droits des consommateurs sont bafouis.
Le chargé de la communication d'Internet Gouvernance Forum au Tchad, Tidjani Mahamad Guinassou, estime que le gouvernement a intérêt à clarifier cette situation.
En matière de la technologie, on peut toujours prendre une mesure et les gens trouveront toujours également la possibilité de contourner. Donc je crois que la meilleure manière, c'est d'utiliser eux également la technologie pour contrer leurs adversaires et d'empêcher certains à y accéder.
Contacté par VOA Afrique, le ministre de la Communication, Mustapha Ali Alifay, qui assure l'intérim de son collègue des postes et de nouvelles technologies, refuse de se prononcer sur la question. André Kodmajingar Ndiamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Les relations entre le Burundi et le Rwanda, deux pays frères qui composaient un seul territoire sous la colonisation belge, restent toujours tendues. Le commerce transfrontalier continue, mais l'afflux d'importateurs et exportateurs a diminué entre les deux pays. Les camions remorques ne sont pas légion, comme il y a plus de 2 ans sur la frontière de la rivière Kanayaru, séparant le Burundi du Rwanda. Reportage de notre correspondant à Bujumbura.
Kanyeru, sur la frontière burundo-rwandaise, il est midi ce jour-là. Très peu de personnes sont visibles sur la frontière côté du Burundi. Des personnes vaquent à leurs occupations quotidiennes. Les douaniers enregistrent les entrées et les sorties des Burundais et étrangers comme à l'accoutumée. Des camions remorques sont parqués au bord de la route. Dans une maison qui sert de restaurant et de bar, la propriétaire, Mama Fiston, la quarantaine, accueille les très rares clients. Elle affirme que les temps ont changé. Témoignage.
Le commerce ici à la frontière entre le Rwanda et le Burundi marche un tout petit peu. Les gens n'ont pas d'argent. Je suis habituée à mon métier, sinon j'aurais déjà abandonné. Il est midi et il n'y a que 2-3 clients. On remercie le bon Dieu. Avant, il y avait des camionneurs et des commerçants qui passaient par ici et on gagnait de l'argent.
Depuis plusieurs années, cet homme, père de 3 enfants, est un commerçant qui vend des pommes de terre qu'il achète depuis la préfecture de Ruwengeri du côté du Rwanda. Il y a plus d'une année, avant la crise du troisième mandat burundais, il importait des dizaines de tonnes de pommes de terre. Mais aujourd'hui, le commerce a diminué.
Le commerce des pommes de terre sur cette frontière a diminué. Maintenant, je me rends au Rwanda une ou deux fois par mois pour acheter les pommes de terre. Ceux qui achetaient ces pommes ne viennent plus.
Jacques Aboura Kenyan travaille pour le Corridor Nord qui concerne 6 pays. Il est responsable du transport. Il travaille pour harmoniser les importations et exportations entre ces 6 pays de la région pour gagner du temps. Mais il reconnaît que les importations et exportations sur la frontière Kanyaru ne sont pas légion ces derniers mois.
Nous avons noté que les exportations ne passent plus par cette frontière et les importations ne viennent pas directement du port de Mombasa, mais de l'Ouganda et du Kenya. Nous ne savons pas pourquoi. Il y a très peu d'importations ces derniers temps.
Ce douanier qui travaille à la frontière entre le Rwanda et le Burundi indique que des produits vivriers sont commercialisés, mais que l'afflux n'est plus aussi fluide comme avant la crise qui a frappé le Burundi.
Je veux dire que le mouvement, ça diminue un peu en tout cas. Même le flux, même les relations, ça a diminué un peu.
Près des sources qui ont requis l'anonymat, la crise née depuis avril de l'année dernière a eu des conséquences sensibles sur les exportations et les importations entre le Burundi et les pays de la région et même ceux du monde. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Dans l'Amérique des Vos, ce vendredi, course à la Maison-Blanche, gros plan sur les conventions des partis en lice. Nous évoquerons avec nos envoyés spéciaux la convention du Parti républicain tenue cette semaine et celle à venir des démocrates. Vos commentaires et réactions sont attendus en direct et sur Facebook. Rejoignez-moi, John Lydon, ce vendredi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Durban accueille la 21e conférence internationale sur le sida. Ce fléau demeure la première cause de mortalité chez les adolescents d'Afrique. En Afrique du Sud, 82% des adolescents infectés sont des filles. Nathalie Barge a joint à Durban le docteur Eric Zogo, expert VIH-Sida, qui cite ici des techniques de prévention adaptées aux jeunes.
Il y a une méthode en anglais qu'on appelait ABC, où on parle de l'abstinence, on dit be faithful, c'est-à-dire il faut être la fidélité, et puis le C qui signifie condoms ou les préservatifs. Alors, sur cette vieille ou traditionnelle façon de provenir ABC, il y a aujourd'hui, on a développé de nouvelles stratégies, dont en priorité les circoncisions médicales chez les hommes. Et on est en train de focaliser aujourd'hui l'âge de 15 à 29 ans chez les hommes. Et on a trouvé qu'en circoncisant les hommes entre l'âge de 15 à 29 ans, on diminue la transmission du sida jusqu'à 60%. On nous a présenté une étude faite au Kenya qui a prouvé que sensibiliser les partenaires femmes ou les adolescentes sur les bienfaits de la circoncision masculine a montré le changement dans le comportement des adolescents garçons.
Il est dit qu'il faut passer donc par les filles, c'est cela?
Entre autres, sensibiliser les garçons eux-mêmes, mais aussi utiliser leurs futurs partenaires. Il y a des statements de certaines filles. Il dit, moi, je n'aurai pas une relation avec un jeune qui est incirconcis parce qu'il est moins hygiénique, parce qu'il est vecteur d'infections sexuellement transmissibles. Alors, des statements peut-être même comme pousse les garçons adolescents à pouvoir aller rapidement se faire circoncire. Et je l'ai dit au début qu'il a été prouvé que la circoncision médicale pratiquée chez les garçons réduisait la transmission de VIH à 60%.
Mais est-ce que vous rencontrez des réticences dans certains pays d'Afrique par rapport à ça, la circoncision ?
Ça dépend des cultures. Ici, on est en train de vulgariser des circoncisions faites par un personnel médical, c'est-à-dire des circoncisions qui n'ont pas d'effet secondaire majeur.
Le docteur Eric Zogo, directeur d'une unité chargée de la circoncision à Cape Town.
Sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Au Cameroun, Arab Contractor décroche un contrat de 28 milliards de francs CFA. La société égyptienne des BTP s'est vue attribuer le marché de construction d'un tronçon de la route transfrontalière allant de Sambilima au Cameroun à Ouesso au Congo. 651 km devront être bitumés, 316 du côté camerounais et 335 côté congolais. En Côte d'Ivoire, plus de 20 000 hectares de cacao ont été ravagés dans le sud et le centre du pays. Depuis le début du mois, en effet, des milliers de chenilles ont déferlé dans les plantations du pays. Les autorités ivoiriennes ont pris l'affaire au sérieux et disent avoir jugulé la menace. Le cacao représente environ 15% du PIB du pays. La Côte d'Ivoire est par ailleurs premier producteur mondial du cacao, avec près de 45% du marché. Nous allons finir par une note économique et sociale à Kano, dans le nord du Nigeria. Les femmes ont du mal à se marier et pour cause, depuis 2012, le gouvernement a mis en place un programme matrimonial pour aider les femmes à se marier en offrant l'argent de la dot, comme le veut la tradition dans cette région. Mais la crise économique qui frappe de plein fouet le Nigeria a poussé le gouvernement à interrompre ce projet.
C'est la page sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chirubin et bonsoir à tous.
Alors on passe de Orange à Total pour sponsoriser le foot en Afrique.
Oui, le géant pétrolier français devient le sponsor principal des compétitions majeures du foot africain. La Coupe d'Afrique des Nations en tête bien sûr. Pour les 8 prochaines années, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui de la Confédération africaine de football et de Total dans un communiqué commun. Précédemment, c'est l'opérateur téléphonique français Orange qui sponsorisait les principales compétitions internationales du continent africain depuis 2009. Outre la CAN, Total va notamment parrainer la Ligue des champions d'Afrique, la Coupe de la Confédération, la Supercoupe, le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN avec des joueurs locaux, ou encore la CAN féminine.
Parlons maintenant de du Tour de France, 18e étape. Froome en chef.
Oui, le Britannique Chris Froome s'est affirmé un peu plus ce jeudi au commandement du Tour de France après sa magistrale victoire dans la 18e étape, un contre-la-montre en côte. Vainqueur pour la deuxième fois depuis le départ du Tour, Froome a repoussé à 21 secondes le Néerlandais Tom Dumoulin qui avait dominé le premier chrono 6 jours plus tôt dans l'Ardèche. Derrière Froome, la lutte pour le podium s'est intensifiée dans ce chrono pentu de 17 km favorable aux grimpeurs. Les places sont restées identiques, mais les écarts se sont resserrés avant les deux prochaines étapes alpestres.
Transfert Angleterre, une nuance par rapport à ce qu'on disait hier Bagassi, Pogba n'est pas encore à Man U.
Oui, le plus gros transfert de l'histoire n'est pas encore effectif. C'est un démenti de l'agent de Pogba, le très influent Mino Raiola. Il nie tout accord entre la Juve et les Red Devils, alors que depuis mardi, la presse italienne, relayée hier par son homologue britannique et aussi par la Voix de l'Amérique, dévoile en effet un luxe de détails sur les offres de Man U pour arracher à la Juve le finaliste de l'Euro 2016 aux côtés des Bleus. Paul Pogba.
Merci Bagassi.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31 40. Vos SMS
et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci Georges Léonard Sagno à la production et présentation Morgane Guériec et chez Rubin, Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Disons un grand merci à nos plus d'1 250 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos. Posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.